La prochaine fois que tu croises un petit taxi rouge dans les rues de Casablanca, ou je sais pas, que tu regardes une façade bien blanche qui vient d'être peinte à Tanger, arrête-toi 2 secondes.
Ouais, on n'y fait même plus attention.
Exactement. Ce rouge vif ou ce blanc parfait, ben c'est pas juste de la peinture. C'est vraiment l'aboutissement visible d'une économie souterraine, un marché industriel complètement silencieux qui pèse, tenez-vous bien, plus de 800 millions de dirhams chaque année au Maroc.
C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce chiffre de 800 millions, il concerne un secteur où les barrières à l'entrée en l'air, de l'extérieur, en tout cas totalement infranchissables.
Absolument.
On consomme la couleur tous les jours, hein, les vêtements, le maquillage, les murs, mais toute la chaîne d'approvisionnement pour ramener un oxyde de fer d'une mine jusqu'à une usine marocaine, ça reste un mystère pour la plupart des gens.
Et bon, décortiquons ça, parce que c'est justement pour dissiper ce mystère qu'on fait cette analyse aujourd'hui. On est le 28 août 2026, et la plateforme marocaine monprojet.ma vient tout juste de publier un guide stratégique ultra détaillé.
Un guide très attendu d'ailleurs.
Ouais, très attendu. Et il s'adresse directement à la jeunesse marocaine, surtout aux jeunes entrepreneurs qui cherchent un peu une alternative au secteur complètement saturé.
Comme le e-commerce classique par exemple.
Voilà. Et la promesse du guide, c'est l'importation et la distribution B2B de produits chimiques de spécialité. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire vraiment les pépites de ce document. On va regarder les coûts, la réglementation, les risques. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado ou juste un mirage logistique?
Alors pour comprendre ça, il faut déjà voir sur quoi repose cette demande énorme de 800 millions de dirhams. Les données douanières du guide sont claires. Le marché y tient sur trois piliers industriels massifs.
Ok, le premier c'est quoi?
Le premier, le plus ancien, on va dire, c'est le textile.
Ah oui, logique.
Avec les pôles de Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, c'est une demande gigantesque. Mais attention, on n'est plus du tout dans les années 90. L'industrie textile marocaine, elle est montée en gamme, elle l'exporte beaucoup.
Ouais, vers l'Europe surtout.
Exactement. Donc aujourd'hui, ils exigent des colorants spécifiques, comme les réactifs pour le coton, qui doivent impérativement respecter des normes européennes comme REACH ou OCOTEX.
Attends, justement, REACH, OCOTEX, on entend souvent ces acronymes, mais on a l'impression que c'est juste, tu sais, des cases à cocher pour faire de l'écologie. C'est vraiment si important pour l'industriel?
Oh là là, c'est infiniment plus grave qu'une question de marketing vert.
Ah ouais?
Bien sûr, REACH par exemple, c'est le règlement européen sur les produits chimiques. Imagine, toi en tant que distributeur marocain, tu fournis un colorant rouge non conforme à une usine à Tanger,
Ok.
et cette usine, elle l'utilise pour teindre des milliers de t-shirts qui partent pour la France.
Aïe, je vois le problème arriver.
Voilà, à la frontière européenne, lors d'un contrôle, la douane détecte une substance interdite, comme certaines amines aromatiques. Ben, les t-shirts sont saisis et littéralement détruits par les douanes européennes.
Oh la vache, détruit carrément?
Oui, ton pigment, c'est pas juste une couleur, c'est le passeport européen de la marchandise de ton client. Si ce passeport est faux, ben, tu coules ton client.
C'est une responsabilité colossale en fait. Tu vends de la conformité légale sous forme de poudre, quoi.
C'est exactement ça.
Et donc le deuxième pilier?
Le deuxième, c'est le BTP, le bâtiment et les travaux publics, avec la peinture. Le boom immobilier et les infrastructures au Maroc, ça génère une soif incroyable pour ce qu'on appelle les pigments inorganiques.
Genre quoi, du blanc?
Oui, le dioxyde de titane, par exemple, pour tout ce qui est blanc et opaque, ou les oxydes de fer pour les tons rouges, jaunes, noirs qu'on met dans le ciment ou les tuiles. Et là, le défi, c'est la constance.
C'est-à-dire que ça ne doit pas changer de couleur au soleil.
Exactement. Un promoteur n'acceptera jamais qu'un lot de peinture blanche devienne jaune après 6 mois sous le soleil marocain.
Ah oui, clair. Et le troisième pilier du guide, c'est la cosmétique. Et ça, j'avoue, ça m'a surpris. Enfin, la rentabilité de ce segment, c'est fou.
C'est le segment où les marges explosent littéralement. Les fabricants locaux de crèmes, de savons, ils veulent tous se débarrasser des colorants synthétiques.
Ouais, les consommateurs n'en veulent plus.
Voilà, donc ils s'arrachent les pigments certifiés naturels et surtout les micas.
Attends, pause. Un mica, concrètement, c'est quoi dans un produit de beauté?
Alors, un mica, c'est un minéral naturel sous forme de feuillet microscopique. Ça a la propriété de refléter la lumière. C'est ça qui donne l'effet nacré ou scintillant dans ton fard à paupières ou une huile sublimatrice.
Ah, le truc qui brille.
Oui. Et en remplaçant les vieux microplastiques par du mica éthique, une marque cosmétique, elle décuple sa valeur. Pour un importateur, trouver un mica de très haute pureté, c'est une marge énorme. Parce que le client n'achète pas juste un ingrédient, il achète un positionnement de marque.
C'est fascinant ce marché B2B. On a des années-lumière du e-commerce basique ou du dropshipping, là. On parle vraiment de la matière première de l'industrie. Mais il y a un truc qui cloche.
Quoi donc ?
Ben, si le gâteau fait 800 millions de dirhams, avec des piliers aussi solides, pourquoi y aurait de la place pour un jeune entrepreneur aujourd'hui, en 2026 ? Les géants mondiaux ont déjà dû tout verrouiller, non ?
Eh bien, la réalité du terrain, elle est beaucoup plus morcelée que ça. Le guide montre qu'il y a une faille structurelle. Les filiales des multinationales, elles ne contrôlent que 35% du marché.
Seulement 35 ?
Oui. Elles sont excellentes, hein, avec des labos de pointe, mais elles sont très chères et imposent des minimums de commandes gigantesques que les PME marocaines ne peuvent pas toujours payer.
D'accord. Et les autres ?
Ensuite, tu as les importateurs généralistes marocains, qui ont à peu près 40% du marché.
Ah, ça c'est ce que j'appelle le syndrome du supermarché. C'est-à-dire que ces généralistes, ils importent de tout, de la résine, du plastique et quelques pigments au passage.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, c'est comme aller dans un hypermarché pour acheter un outil très précis. Le vendeur au rayon confiture va pas pouvoir t'expliquer comment marche ta perceuse spécialisée, tu vois.
Exactement. Ces généralistes, ils sont lourds et peu réactifs. Et c'est là que le jeune entrant a une carte à jouer. La proposition de valeur, elle doit être chirurgicale, une spécialisation technique absolue combinée à une logistique très rapide.
Donc tu livres depuis un stock local en 24 ou 48 heures avec toutes les fiches de sécurité ?
C'est ça. Et il ne faut pas oublier de tirer parti des accords de libre-échange avec la Chine, l'Inde et la Turquie pour sourcer intelligemment.
Ok, mais il reste 25% du marché, ils achètent où, eux ?
Ce sont les industriels marocains qui, fatigués des généralistes, achètent eux-mêmes directement à l'étranger, souvent en Chine ou en Inde sous l'incoterme FOB.
Ah ouais, donc tout le stress est pour l'acheteur au Maroc ?
Voilà, l'industriel marocain gère le risque maritime, les retards, les taux de fret qui explosent et surtout le dédouanement à Tangemed ou Casablanca.
Ce qui n'est pas une mince affaire.
Un cauchemar. Un conteneur bloqué 3 semaines au port pour un coup de tampon manquant, ça paralyse toute une chaîne de peinture. Donc, le jeune entrepreneur de 2026, il doit être l'antidote à ce cauchemar en prenant ce risque et en livrant dédouané.
Bon, parlons d'argent maintenant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Combien ça coûte de devenir ce fameux bouclier logistique ?
Le guide donne 2 scénarios. Le premier, le modèle starter, demande un investissement d'environ 340 000 dirhams.
340 000, ok, c'est pas rien, mais pour du B2B, c'est jouable.
C'est réaliste. Ça te permet de financer un premier stock de 10 à 15 références très demandées, un utilitaire, la création d'entreprise et un petit entrepôt certifié d'environ 100 mètres carrés. Et l'objectif, c'est d'avoir 15 à 20 clients pour un chiffre d'affaires de 80 000 à 120 000 dirhams par mois.
Et en marge nette ?
Entre 20 000 et 30 000 dirhams nets.
D'accord. Et le deuxième scénario ?
Le scénario avancé, c'est direct la cour des grands. 1 750 000 dirhams.
Bah ouais, grosse différence.
Ouais, là on importe des conteneurs complets de 50 à 80 références, un grand entrepôt et surtout un petit labo interne avec un chimiste pour tester la qualité avant livraison.
Bon, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Le guide annonce un retour sur investissement en 12 à 18 mois pour le starter. Franchement, avec les délais de paiement au Maroc...
C'est le grand sujet.
Ben oui, les industriels payent à 60, 90 ou même 120 jours. Ils servent des fournisseurs comme banque gratuite. C'est pas un peu utopique, 12 mois ?
C'est un scepticisme très sain. Et d'ailleurs, l'asphyxie de la trésorerie tue plein de jeunes boîtes. Mais la projection tient la route grâce à une spécificité de la chimie, la récurrence.
C'est-à-dire ?
C'est comme un abonnement.
Mieux qu'un abonnement. Si tu vends un pigment bleu à un fabricant de peinture, il va calibrer sa formule exacte sur ton pigment. C'est liant, c'est solvant, tout est réglé pour ton produit.
Ok, je vois. S'il change de fournisseur juste pour gratter 2 dirhams le kilo, il risque de rater sa peinture, qui va s'écailler. Le risque est trop grand. Donc, une fois que t'es validé, tu es intouchable. Il va te commander ses 2 tonnes tous les mois.
Ah, donc t'as une rente qui lisse un peu les problèmes de trésorerie sur le long terme.
Exactement. La marge brute reste stable entre 25 et 35% et les commandes s'enchaînent.
Mais il faut protéger cette marge. Et ça m'amène à un autre gros risque dont parle le guide ATI, les devises. J'ai vu tellement de boîtes couler, non pas par manque de clients, mais à cause des taux de change.
Oh oui, la mécanique du désastre est classique. Tu achètes en dollars en Inde, mais tu as signé un contrat annuel de vente en dirhams au Maroc avec une belle marge de 30% en tête.
Et le dollar monte.
Exactement. Le dollar s'apprécie violemment pendant que le bateau est en mer. Ton coût explose. Quand tu livres, le change a totalement vaporisé ta marge et tu vends à perte sans rien pouvoir faire.
C'est terrible.
Donc le guide dit bien, jamais on ne joue, jamais au trader. On va voir sa banque et on met en place des contrats de couverture à terme. Tu fixes le taux d'achat des devises le jour de la commande. Ça coûte une petite commission, mais ça sauve ta rentabilité. Et il faut toujours prévoir une marge de sécurité de 5 à 10% sur les coûts.
Pragmatique. Alors, on a le financement, on est couvert, on commande. Mais il y a l'administration. En 2026, tu ramènes pas des produits chimiques comme tu ramènerais des chaussures.
Sûrement pas. Cela soulève une question importante sur la sécurité environnementale. La réglementation s'est durcie. Déjà, forme juridique. SARL ou SAUSU privilégiée. Ensuite, avant même de commander, il faut une déclaration via la plateforme rocas.ma, catégorie courtage de produits chimiques.
Ok, donc l'État vérifie ton entrepôt.
Voilà, ventilation, rétention des liquides. Ensuite, pour la douane, c'est l'ADI avec un titre d'importation du ministère du Commerce. Et là, attention aux substances sous contrôle.
Genre le plomb ?
Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent. Tu dois fournir la fameuse FDS, la fiche de données de sécurité. Si elle n'est pas conforme ou s'il manque une déclaration, le conteneur est bloqué.
Et ça coûte une fortune ?
Des frais de surestari astronomiques. Tu perds ta marge de l'année en 3 semaines de blocage. C'est pour ça que ton premier recrutement, c'est pas un vendeur. C'est un excellent transitaire.
Logique. Et une fois que la poudre est dans notre entrepôt, il y a la question du stockage. Le guide parle de la méthode FIFO. Premier entrée, premier sortie. Franchement, ça m'a fait penser à la gestion du rayon des yaourts à l'épicerie du coin.
L'image est bonne, mais l'échelle des dégâts n'a rien à voir. Si le yaourt périme, l'épicier perd 5 dirhams. Si tu gères mal ton entrepôt et qu'un fût de colorant réactif reste exposé à l'humidité de Casablanca pendant des mois...
Il marche plus.
Pire, il a l'air normal, il est bien rouge, mais ton client textile l'utilise pour 10 tonnes de tissu. La réaction chimique foire, la couleur bave.
Oh non.
Tu viens de détruire 10 tonnes de production de ton client. Les poursuites judiciaires, ça te met en faillite direct. Donc, la gestion FIFO et le contrôle de l'humidité, c'est pas juste de la théorie administrative, c'est vital.
Waouh. Bon, on voit bien que c'est tendu. Concrètement, comment on lance ça en 5 mois, comme le dit le plan d'action du guide Rocas? Passons vite sur le mois 1, tout ce qui est juridique.
Le vrai combat, c'est les mois 2 et 3, le sourcing et l'évaluation. Tu peux pas juste cliquer sur « acheter » sur un site chinois ou turc. Il faut commander les échantillons, les faire analyser par des labos indépendants au Maroc pour vérifier les métaux lourds. En parallèle, tu négocies avec les agents de fret.
C'est le mois 3 pour la douane et la plateforme Rocas, le mois 4 pour le stock. Et au moins 5, on vend. D'ailleurs, le marketing B2B dans ce secteur, c'est pas faire des danses sur les réseaux sociaux, on est d'accord?
Sûrement pas. Le guide recommande une stratégie hybride. D'un côté, le SEO. Si un directeur d'usine tape « pigment oxyde de fer Maroc », tu dois être le premier lien Google, avec tes fiches techniques prêtes à télécharger. C'est la présence digitale, avec un peu de LinkedIn pour l'expertise.
Et de l'autre côté, la bonne vieille méthode, le contact humain.
Les chaussures de sécurité, la voiture et la tournée des zones industrielles. Mais attention, l'erreur classique, c'est de vouloir parler au PDG.
Ah ouais, il faut viser qui alors?
Le responsable formulation ou le chef de labo. C'est à lui que tu donnes ton kilo d'échantillons gratuit. S'il valide ton produit dans ses éprouvettes, c'est lui qui va imposer ton pigment aux acheteurs de son usine.
Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? C'est clair que c'est pas l'import-export facile des clichés. C'est un métier d'expert. Il faut être logisticien, expert en douane, partenaire de confiance.
Tout à fait. C'est un métier de l'ombre, mais très exigeant. Mais tu sais, ça m'amène à une réflexion que le guide effleure à peine.
Ah, je t'écoute.
Si on se projette. Aujourd'hui, en 2026, le jeu, c'est de maîtriser l'importation de ces pigments pour nourrir l'industrie marocaine.
Ouais.
Mais la vraie question pour la prochaine décennie, c'est à quel moment tous ces importateurs marocains auront accumulé assez de capital et surtout assez de savoir-faire technique pour commencer à fabriquer ces pigments éco-responsables directement ici, au Maroc.
Renverser complètement la chaîne de valeur, en fait.
Exactement. Ne plus juste importer efficacement, mais devenir des fabricants souverains d'ici 2035.
Waouh ! Passer de distributeur malin à industriel, c'est une sacrée vision à long terme. Franchement, ça donne le vertige, mais dans le bon sens.
Ouais.
En tout cas, En attendant de voir ces futures usines sortir de terre, la prochaine fois que vous croiserez ces couleurs éclatantes dans la rue, vous saurez qu'il y a toute une machinerie, une économie silencieuse derrière. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage de l'ombre et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces marchés invisibles.